Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Themavet.
Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
Belle écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Armelle Malavallon, qui est par ailleurs auteure de romans policiers. Bonjour Armelle, bienvenue sur Veto Micro.
Bonjour Marine, merci de m'accueillir.
Alors c'est sur la suggestion d'une auditrice, qui est probablement aussi une de tes lectrices, que je t'ai contactée. On finit la saison 1 de Veto Micro avec des propositions d'invités qui émanent de consoeurs et de confrères. Donc c'est un plaisir pour moi de recevoir un écrivain, parce qu'en tant qu'éditrice et journaliste, moi j'aime les lettres avec un grand L, j'aime lire, j'aime écrire. Et puis tu es le premier écrivain de Veto Micro, donc c'est une réelle joie. Armelle, tu es sortie de Lyon en 97. Après un stage de fin d'études dans l'industrie pharmaceutique, tu entres dans la vie active par cette porte-là, donc pas en tant que praticienne, mais en tant que responsable du laboratoire diagnostique d'un grand labo, Virbac, pour ne pas le nommer. Puis il y aura un passage par le Vietnam en nutrition animale qui débouchera sur une création d'entreprise dans l'import-export et le négoce d'additifs pour l'alimentation animale. Puis en 2010, virage à 180, tu te consacres à l'écriture jusqu'à la publication de ton premier roman en 2015. Deux autres romans suivront, dont le dernier qui n'est pas totalement étranger à notre univers vétérinaire, on aura l'occasion d'en reparler. Donc une carrière non conventionnelle pour une veto, une carrière riche et variée. Alors évidemment, j'ai plein de questions. On y va, c'est bon pour toi ?
C'est bon pour moi, on peut y aller.
Alors la première question, c'est comment tu en arrives à devenir vétérinaire ?
Alors ça a été... pas un parcours tout tracé, parce qu'en fait, alors la vocation de vétérinaire, elle remonte à la petite enfance. Pour moi, vétérinaire, c'est vraiment une vocation. Pour en avoir discuté avec plein de confrères et de consoeurs, je crois qu'on retrouve toujours un peu ça. C'est l'amour inconditionnel des animaux dans la petite enfance, voilà, et le désir de devenir vétérinaire comme on veut être pompier, ou policier, ou docteur, enfin voilà. Donc moi, j'ai eu cette vocation et cette envie de devenir vétérinaire dans la petite enfance. Je voulais même être toiletteuse pour chiens, j'avais pas de grande ambition à l'époque. C'était vraiment être entourée d'animaux, travailler avec des animaux. Voilà, l'idée d'être vétérinaire m'est venue quand j'ai commencé à emmener mes chats chez le véto. Voilà, les voir travailler, soigner les animaux, ça m'a donné vraiment envie. Donc, c'était vraiment dans la petite enfance. Et puis, à partir du moment où j'ai découvert, alors on va dire en préadolescence, adolescence, la littérature, les livres, là, j'ai un peu oublié cette idée. C'est-à-dire que j'ai dévoré les livres, les romans, j'ai commencé à écrire des histoires, des poèmes, et je me suis plus projetée dans une carrière littéraire, en fait. Et
puis progresser. Ah, donc les deux viennent de l'enfance en fait, finalement.
Oui. Alors moi, pour moi, vétérinaire, c'est la petite enfance, vraiment petite enfance.
D'accord.
Quand je lisais pas encore en fait, ou des petites choses.
Oui, d'accord.
À partir du moment où j'ai vraiment découvert la littérature, les romans, je me souviens. Alors là, c'est la préadolescence. Je sais pas, j'étais assez jeune. Je regardais Pivot avec ma mère. Voilà, ça remonte là à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà, apostrophe, l'émission de Bernard Pivot tous les vendredis soirs à 20h ou 21h, c'était en prime time à la télé. Je regardais ça avec ma mère et elle achetait les livres et moi je lisais les livres derrière. J'ai lu des livres très tôt qui étaient destinés aux adultes et voilà, et du coup oui, la littérature, les livres sont vraiment entrés dans ma vie assez tôt et là c'est plus devenu ma passion, les animaux, et l'envie d'être vétérinaire est vraiment a été mise de côté.
Et comment elle est revenue alors ?
Alors, elle est revenue parce que à l'époque, quand on était bon à l'école, on était orienté vers des filières scientifiques. Donc,
je crains que ce soit encore le cas aujourd'hui.
Hein. Ah bon ? Et donc, à la fin de la seconde, moi, j'étais bonne dans toutes les matières, voilà, littéraire comme scientifique. J'ai demandé à la fin de la seconde à aller en première A. À l'époque, c'était littéraire. Et là, branle-bas de combat, les profs, le conseil de classe et tout, on dit « mais c'est pas possible, j'étais première de la classe, j'avais d'excellentes notes en maths, physique, chimie, bio, etc. » C'est pas possible, elle peut pas aller en A et tout. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont interdit d'aller en A. Ils m'ont mis d'office en première S. Pour eux, il fallait que je fasse première S, terminale C. Voilà, il était hors de question que j'aille en filière littéraire. Donc, me voilà en première S, terminale C. Et puis, au moment de choisir mon orientation, finalement, la seule chose qui m'est venue à ce moment-là, c'est prépa veto, quoi, parce que je me suis dit, la seule chose que j'ai envie de faire en scientifique, c'était veto, et je me voyais pas du tout comme mes petits copains. J'étais à Lyon, dans un lycée assez prestigieux, et alors c'était tout pour maths sup, maths spé. Ils voulaient tous aller en prépa oui. maths sup, éventuellement agro, mais c'était pas forcément très bien vu. Prépa HEC, enfin voilà. Et moi, j'étais là, non. Donc voilà, je me suis dit, alors on va retourner à mes premières amours, et je me suis inscrite en prépa veto, lycée du Parc, voilà.
C'est marrant, t'es une littéraire contrariée en fait.
Oui, un peu malgré moi, et je dirais que là pour le coup, c'était pas un vrai choix. C'était peut-être un choix par défaut finalement. Mais disons que c'est la seule voie qui m'a paru intéressante.
D'accord. Et tu arrives à l'école de Lyon, et quand on a préparé cette interview, tu m'as écrit qu'en fait en première année vous aviez un stage court en milieu rural. Moi j'avais la même chose à Alfort, et que finalement toi tu décides de faire plutôt un stage long à l'Ifremer de Tahiti. Qu'est-ce qui fait que tu empruntes dès la première année un sentier assez secondaire à ce moment-là?
Alors, en fait, l'envie de voyage et l'envie de vivre à l'étranger m'est venue de mon grand-oncle, qui était ambassadeur, hein, qui était diplomate, hein, qui a été consul de France en Australie, au Brésil, ambassadeur dans les Émirats arabes, à Abu Dhabi, etc. Et c'était vraiment quelque chose qui me faisait rêver. Donc, en fait, quand j'envisageais des études littéraire, c'était une carrière de diplomate qui me faisait rêver, parce que je n'imaginais pas devenir écrivain en fait. Pour moi, c'était pas forcément un métier d'être écrivain, de vivre de sa plume. Donc je m'étais plutôt projetée vers des études pour devenir diplomate ou travailler, voilà, dans ce genre de cursus qui permet de voyager. Et du coup, c'est bizarre, mais les hasards de la vie ont fait que mes copines ont souvent été des filles d'expat. Il faut croire que je les recueillais un peu comme des petits chiots en détresse en seconde à Lyon, où j'étais dans un quartier assez bourgeois, avec toutes ces filles de bourgeois lyonnais qui se connaissaient toutes entre elles, etc. Moi, je suis devenue super copine avec une fille dont les parents vivaient au Tchad, qui avait vécu toute son enfance en Afrique, dans différents pays d'Afrique, et elle venait de débarquer à Lyon. Elle vivait chez sa tante pour faire ses études en France. Elle était un peu toute seule, et donc je suis devenue copine avec elle. Voilà, je l'ai hébergée, elle venait à la maison, etc. Et elle me parlait de l'étranger, et ça, voilà, déjà là, ça m'a donné envie de partir à l'étranger. Et pour revenir, je fais un peu trop de digression, pour revenir à l'école vétérinaire, ma meilleure amie en première année, et ben ses parents vivaient à Tahiti. Son père était directeur de l'Ifremer de Tahiti. Pareil, c'était encore un profil de fille d'expat qui avait vécu dans des pays étrangers, parce que ses parents travaillaient à l'étranger. Et elle était rentrée à Tahiti pour les vacances de Noël. Donc elle pouvait pas retourner à Tahiti faire un stage. Et donc elle m'a proposé, elle m'a dit, bah toi tu peux y aller en stage à l'IFREMER là-bas. Elle avait déjà passé un mois là-bas, elle pouvait pas se repayer les billets d'avion. Et donc je dis, bah moi je me paye le billet d'avion et je vais faire mon stage à l'IFREMER. Et donc voilà, cette envie de voyage, cette envie de découvrir un peu ce que c'était la vie des Français à l'étranger. Et donc j'ai fait toutes les formalités parce que fallait trouver un prof, etc., qui nous parraine pour accepter ce stage longue durée. C'était un peu quelque chose à part parce que je loupais des semaines de cours, hein, je crois. Mes petits camarades, ils avaient un stage assez court et puis ils reprenaient les cours, alors que moi je devais partir plus longtemps. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir en stage à Tahiti, et puis ça s'est bien passé, quoi. J'avais économisé, j'ai payé le voyage avec mes sous, enfin j'ai rien demandé à mes parents, j'ai toujours économisé mon argent pour faire des voyages. Voilà, donc je me suis retrouvée en première année dans un laboratoire de d'histologie et de bactériologie pour étudier les pathologies des crevettes.
Hein. D'accord, original.
Rien à voir avec ce qu'on avait déjà commencé à étudier, dans le cursus vétérinaire. L'histologie et la bactériologie ont commencé ça en deuxième année, je crois. Donc, j'étais en avance. En fait, je commençais à apprendre des matières qui n'étaient pas encore au programme. Je faisais un peu mes études hors des sentiers battus, quoi. C'était.
D'accord. Donc, si on résume, finalement, tu es en début de cursus avec un amour de la littérature et du voyage.
Oui.
Et finalement, du coup, comment se passent tes études dans le concret, puisque après, tu m'as écrit qu'en troisième et quatrième année, tu découvres aussi la pratique, les gardes de nuit, la clinique, ce que ça représente, et que cette expérience te refroidit sur l'exercice en libéral. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors en fait, je tiens quand même à dire que quand j'étais en prépa, au lycée du Parc à Lyon, et on faisait des soirées avec les vétérinaires qui étaient déjà à l'école vétérinaire de Lyon. Et eux, quand ils me parlaient de l'école vétérinaire de Lyon, de leurs études, etc., ils m'ont donné envie, mais je pense aussi c'est que la prépa, on a tellement envie d'avoir le concours, que à ce moment-là, vraiment, j'ai eu envie d'être vétérinaire et j'ai eu envie de réussir ce concours. Ils me racontaient les cliniques, comment ça se passait, enfin, et vraiment, ça me faisait rêver. Et une fois arrivé à l'école vétérinaire, alors c'est vrai qu'en première année, on n'est pas encore en clinique. Hein. On fait beaucoup de théorie, etc.
Théorie.
Mais on rentrait en clinique en deuxième année à l'école vétérinaire de Lyon. Je sais pas comment ça se passe actuellement, mais moi.
Ah oui, c'est tôt, ouais.
On rentrait
en troisième année à mon époque.
Ah,
ouais.
D'accord. Dans les années 90, c'était donc en fin de deuxième année. La prépa, de les voir de les entendre me raconter leur matinée en clinique, à faire des OP, des consultations, etc. Je trouvais ça génial et j'ai vraiment envie de devenir vétérinaire canine. Canine, moi, par contre. La rurale m'a jamais fait envie, mais je voulais exercer en libéral. Et une fois à l'école, les études m'ont vraiment plu et j'ai vraiment décidé de faire ça, c'est-à-dire d'exercer en pratique libérale. Et à tel point que j'ai accepté, alors on était tout un petit groupe à aller faire des gardes de nuit et de week-end dans une clinique vétérinaire, une assez grosse clinique vétérinaire du centre-ville de Lyon. J'ai voulu tout de suite, le plus vite possible, commencer à exercer. Et alors là, patatras, parce que déjà, je pense que j'ai commencé trop tôt, c'est-à-dire que se retrouver à faire des gardes de nuit, des urgences vétérinaires, alors qu'on n'a même pas fini ses études, eh ben c'est trop tôt parce qu'on n'est pas préparé.
C'est stressant, tu veux dire ?
Ah oui, c'est stressant. On n'est pas préparé à tous les cas de figure. On n'a pas encore. Il y avait des choses. J'avais même pas eu les cours en fait, puisque j'ai commencé en troisième année à faire ces gardes. Et puis c'est dur, quoi. C'est dur parce que la nuit, on a affaire à des gens. Alors, je sais pas si c'est pareil dans toutes les régions, dans les petites villes, c'est peut-être pas pareil, mais à Lyon, en centre-ville, je me suis retrouvée face à des clients agressifs, à des choses hyper stressantes, et gérer des cas comme ça, seul, aussi jeune et sans expérience, à devoir gérer c'était pas les animaux le problème, hein, c'était vraiment les maîtres, les propriétaires d'animaux qui apportent leur stress. Et puis honnêtement, le fait d'être une femme, une jeune fille, alors moi je faisais plus jeune que mon âge en plus, alors quand ils arrivaient et qu'ils tombaient sur moi, tête qu'ils faisaient déjà, ils demandaient où était le vétérinaire. Alors quand je leur disais...
Parce que c'est d'une génération, vous étiez en quelle proportion à peu près à l'école d'hommes et de femmes?
Oh, on était... Il y avait déjà pas mal de filles, hein, mais peut-être pas encore 50-50. Je dirais qu'il y avait encore moins de filles que de garçons.
D'accord.
Mais en tout cas, dans les cabinets, il y avait encore beaucoup plus d'hommes que de
beaucoup
femmes.
Beaucoup d'hommes.
Il y avait beaucoup d'hommes. Et donc, le vétérinaire, c'était un homme, forcément. Et moi, à chaque fois, on croyait que j'étais la secrétaire, en fait. Hein, on croyait que j'étais l'assistante. Et on demandait à voir le vétérinaire. Et quand je disais que c'était moi, alors déjà, d'emblée, c'était un peu la douche froide, quoi, la soupe à la grimace. Et puis, c'était pas évident. Et ça m'a un peu... J'y allais la boule au ventre. J'étais stressée. Je passais des nuits horribles, des week-ends horribles. Enfin, c'était vraiment... Et
oui, ça t'a dégoûté en fait, quelque part.
Ah oui, ça m'a dégoûté.
Mais aujourd'hui, ils le font plus trop, hein, je pense, parce que moi, j'ai été les dernières années, parce qu'en fait, t'avais pas de carte d'assistant. Maintenant, ce qu'ils appellent la carte d'assistant, moi, ça s'appelait la carte verte. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas le droit d'exercer avant ta toute dernière année, mais ça se pratiquait quand même assez fréquemment. Maintenant, ils y vont plus si tôt parce que on peut vraiment avoir des problèmes avec l'ordre et des problèmes importants si on exerce avant d'être diplômé. Donc, ça se pratique plus, en tout cas, je pense. Mais finalement, au vu de ce que tu racontes, c'est pas plus mal parce que tu t'es peut-être allé trop tôt et ça t'a peut-être dégoûté de quelque chose qui, avec un peu plus de bagages, t'aurait plu en fait.
Oui, mais je pense vraiment que j'y suis allée trop tôt. Je pense que j'étais pas prête et qu'on n'était pas prêts, hein, tous. Alors j'avais des copains, c'est marrant, hein, mais c'est pas très féministe ce que je vais dire, mais les mecs s'en sortaient mieux que les filles, je pense. Hein.
Question de confiance en soi.
Ouais. J'avais des copains pour qui ça se passait bien. Avec les filles, elles étaient un peu dans le même cas que moi. C'était un peu difficile. Certaines étaient avaient plus confiance en elles parce que issues d'un milieu veto. Donc, des parents veto, elles avaient plus d'expérience parce qu'elles avaient passé leur enfance dans la clinique veto de papa. Elles avaient passé les vacances. Elles avaient déjà bossé, en fait. Moi, je venais d'un milieu pas du tout véto, c'était tout nouveau pour moi, donc ma seule expérience, c'était la clinique à l'école, et j'en avais pas fait assez, quoi. J'en avais pas fait assez, et j'en avais pas fait du tout en autonomie, quoi, en autonomie complète. Là, on est seul, on est lâché dans la nature, complètement seul. Et puis, voilà, je sais pas si les gens se rendent compte, mais quand on fait des gardes, des urgences, on fait énormément d'euthanasie. Je crois que la majorité des actes que j'ai pratiqués, c'était des euthanasies. Et en fait, donner la mort à des animaux comme ça, c'est un peu dur, quoi.
Oui, on fait pas la même chose en urgence que ce qu'on fait la journée, effectivement. Oui.
Ouais. Et les gens, souvent, même des choses qui se passaient très calmement, avec beaucoup de bienveillance et sans aucun stress, hein, c'était quand même dur parce que il y avait des gens qui avaient des animaux qui étaient mourants des fois depuis des semaines, des mois, avec un cancer, voilà, des maladies de longue durée, mais on sait pas pourquoi ils attendent 3h du matin ou 4h du matin pour décider de venir à la clinique mettre fin à la vie de leur animal. Peut-être que la nuit c'est plus facile pour eux. Ils ont l'impression de faire ça en catimini. Et moi, j'ai fait beaucoup d'euthanasie comme ça en pleine nuit, qui, selon moi, aurait pu être faite la journée, qui n'était pas des urgences. Mais on avait l'impression que les gens attendaient la nuit. Et des fois, je me disais, mais pourquoi ils ont attendu 3h du matin pour venir faire ça la nuit, quoi. Enfin, c'était un peu dur quand même à gérer ça aussi.
Et c'est à cause de ça que finalement tu décides de faire ton stage de fin d'études pas en pratique et que tu arrives chez Virbac?
Oui, c'est-à-dire qu'à cause de cette expérience, j'ai commencé à remettre en question ma volonté d'être praticienne en libéral. J'ai commencé à envisager les autres possibilités de carrière de vétérinaire. À l'époque, on ne savait pas trop qu'on pouvait faire d'autres choses. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, veto, c'était veto libéral, hein. Il n'y avait pas d'autre choix. Et puis, un jour, alors, je vais le citer, c'est Loïc Dombreval, hein, qui travaillait chez Virbac. Ah,
je l'ai interviewé la semaine dernière.
Ah, c'est vrai. il est venu, donc, il est devenu député, hein, depuis.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais à l'époque, il travaillait chez Virbac. Alors, je ne sais plus quel était son rôle. Il devait être à la communication.
Exactement. Il était directeur de la communication.
Voilà, directeur ouais. de la communication. Et il est venu à l'école vétérinaire de Lyon nous présenter ce que c'était que la carrière de vétérinaire en entreprise. Et ben, il m'a convaincue, hein, Loïc. Il a été très convaincant. Je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça aussi quand on est vétérinaire. Ça m'a ouvert d'autres horizons. Et je me suis dit, bah tiens, je pourrais essayer. Voilà, j'ai commencé à penser à ça. Alors, j'ai aussi envisagé d'autres pistes. Alors, j'avais envisagé de devenir primatologue, hein, qui était un de mes rêves aussi, de faire un peu comme Diane Fossey, gorille dans la brume, aller m'occuper des singes en Afrique. Et alors là, je suis rentrée en contact avec un primatologue français dont j'ai oublié le nom. Je sais plus du tout. C'était par l'entremise d'un ami, d'un copain veto dont le père était veto et connaissait ce gars-là. J'ai eu une longue conversation avec lui et il m'a dégoûtée. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a expliqué que quand on était primatologue, la seule chose qui me revient, mais je me souviens, ça m'avait frappée, c'est qu'on avait de grandes chances de mourir jeune, hein, parce qu'on avait de grandes chances d'attraper des maladies infectieuses transmises par les primates aux hommes, parce qu'on est très proche d'un point de vue génétique, donc on a de nombreuses maladies infectieuses transmissibles.
Mais c'est fou de donner ça comme argument à une jeune personne motivée.
Je me souviens, il m'a donné des exemples horribles, avec des noms et tout, des noms de vétérinaires morts. Alors voilà, une telle, elle a travaillé en primatologie, à tel endroit, je me souviens plus des détails, mais elle a attrapé... telle maladie, elle est morte à 34 ans, enfin bon, les trucs, il m'a horrifiée, quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, non, ben je vais envisager autre chose. Je sais plus, à l'époque, j'ai envisagé pas mal de choses et puis finalement, je crois que Virbac et des gens de Virbac sont revenus à l'école. Ils étaient motivés, hein, je sais pas, ils cherchaient du monde et ils ont proposé des stages et j'ai passé des entretiens à l'école avec celui qui allait devenir mon futur patron et il m'a proposé un stage de longue durée. Il cherchait quelqu'un pour Virbac Bioassistance et j'ai postulé et ils m'ont embauché et c'était déjà dans l'optique de rester plus longtemps, c'est-à-dire que pareil, là, le stage de fin d'année devait être de un mois ou un mois et demi. Mmh. Moi, je suis partie d'emblée pour 3 mois en sachant que ça allait être en fait un stage de 6 mois. Et puis après, j'ai prolongé.
Tu voulais que ça devienne un poste, en fait.
Oui,
t'avais
oui,
déjà
oui.
ça dans l'idée.
Ouais. Oui, oui, oui. Et eux aussi, de toute façon, ils cherchaient quelqu'un pour vraiment reprendre le poste. Donc, je me suis dirigée... dans cette voie, j'étais assez convaincue que ça me plairait. Et ça m'a beaucoup plu, d'ailleurs.
Alors, quand tu as été embauchée, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier-là?
Alors, j'étais responsable d'un laboratoire qui s'occupait des diagnostics des maladies infectieuses pour les animaux domestiques. Donc, toutes les pathologies pour lesquelles il y a une vaccination. Donc, on faisait aussi la promotion des vaccins Virbac. Évidemment, je m'occupais de la vaccinologie. Donc, les vétérinaires, quand ils suspectaient une maladie de Carré, une parvovirose, voilà, toutes les maladies infectieuses, ils envoyaient les prélèvements chez nous. Et on faisait les tests en laboratoire. Et comme c'est des tests qui sont parfois difficiles à interpréter, c'est moi qui interprétais les résultats des tests au téléphone avec les vétérinaires en fonction de la clinique, de l'évolution, etc. Et qui donnait les consignes à prendre. Souvent c'était sur des élevages, des choses comme ça. Donc voilà, on peut mettre en place les mesures de prophylaxie, etc. Donc, je faisais à la fois du diagnostic, la vaccinologie, aussi expliquer les protocoles de vaccination pour les différentes maladies, et puis la pharmacovigilance quand il y avait des problèmes sur les vaccins ou sur des médicaments Virbac aussi, quand il y avait des soucis, je gérais les cas de pharmacovigilance. Donc j'étais en contact au téléphone avec les vétérinaires, ce qui me donnait l'impression d'être un peu sur le terrain avec eux. Voilà, ça c'était sympa. J'étais pas totalement déconnectée de la pratique et du terrain parce que j'étais toujours en contact avec des vétos au téléphone en fait.
Mais excellente transition, c'est exactement ce que j'étais en train de te poser. Est-ce qu'il y a une espèce de culpabilité que tu as à ce moment-là de ne pas faire de la pratique ?
Oui, alors c'est marrant que tu parles de culpabilité parce que je l'ai toujours eue et que je l'ai encore et de plus en plus.
On est tous pareils, hein, c'est dramatique, hein, oui.
Quand j'entends mes collègues, mes confrères, pardon, ce ne sont pas des collègues justement, mes confrères vétos, mes copains, hein, vétos, à quel point ils galèrent pour trouver des vétos pour venir travailler dans leur clinique, surtout ceux qui sont à la campagne, qui bossent en rural ou en mixte. Mais je culpabilise à un point de pas exercer parce que je me dis on manque de vétos, les pauvres, ils bossent comme des fous, ils arrivent pas à gérer toute la clientèle qu'ils ont, ils arrivent pas à recruter et moi je suis là, j'ai mon diplôme de véto et j'exerce pas. Et oui, j'éprouve cette culpabilité quand il y a eu la pandémie de Covid-19, mais j'étais prête à retourner sur le terrain et à vacciner, moi. Mais vraiment, oui. Je pensais que les vétérinaires allaient être réquisitionnés. Pour moi, on était les meilleurs placés pour gérer ce type de pandémie. On est quand même sur une épizo aussi. On connaît ça, on sait gérer les épidémies, les pandémies. C'est le cœur de notre métier aussi. Et quand je voyais que personne ne donnait la parole aux vétérinaires, que à un moment, il y a des vétérinaires qui se sont proposés pour faire de la vaccination, etc.
Oui.
Et en gros, on leur a dit, non, mais attendez, les vétérinaires, vous êtes bons qu'à vous occuper des animaux. Et on les a pas écoutés. Mais moi, j'aurais été prête à retourner sur le terrain pour vacciner les gens, hein, vraiment. Ça m'aurait. Voilà, il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression de laisser tomber ma confrérie, en fait, un petit peu.
Ouais. Et du coup, quand dans ces années-là, là, où tu as commencé chez Virbac, comment étaient perçus les non-praticiens ? Comme des démissionnaires ou tout le monde s'en moquait ?
Non, pas du tout. On était perçus comme des extraterrestres, un peu, comme des ovnis. Mais les autres vétos ne nous enviaient pas du tout. Parce ouais. que bah, je crois que c'est plutôt positif, ça veut dire qu'ils étaient très heureux de leur vie, de faire ce qu'ils faisaient. Donc ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont bosser pour des labos dans des bureaux
D'accord, c'est plutôt une perception négative, quoi.
Oui, négative et puis pas très envieuse parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait faire un boulot pas très intéressant, un peu de fonctionnaire dans un bureau, à faire du marketing, ils savaient pas trop ce qu'on faisait. Et eux, ils s'éclataient dans leur... En tout cas, les gens de mon âge, on était sur des jeunes vétos qui commencent leur carrière et qui étaient très enthousiastes, très heureux. Et moi, tous mes copains étaient super heureux d'avoir leur premier job. Ils bossaient avec des vétos, voilà, avec qui ça se passait bien et tout. Non, ils étaient pas du tout envieux. Au contraire, ils nous regardaient un peu, genre, ouais, pourquoi elle fait ça? Et à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas du tout de manque de main-d'œuvre. Hein. Il y avait suffisamment de vétos sur le marché.
Oui, donc on leur en voulait pas puisque ça ne causait pas de problème de pénurie puisqu'il y avait suffisamment de monde.
Ah oui, non, pas du tout. Même au contraire, moi, quand je suis sortie de l'école, alors j'ai l'impression que vous, alors je connais pas trop, enfin je dis vous, je sais pas quel âge tu as, toi tu es sortie de l'école depuis un moment.
2011.
Déjà. 2011, d'accord. Mais j'ai l'impression que les jeunes qui sortent de l'école maintenant, pour eux, c'est open bar, quoi. On leur tresse des tapis de fleurs pour qu'ils viennent bosser. Et nous, quand je suis sortie de l'école, donc c'était en 97, c'était pas évident de trouver du boulot hein, pour tout le monde. Hein. On cherchait du boulot. Et on n'en trouvait pas partout. Il y avait du travail, mais on n'avait pas l'embarras du choix, quoi. C'était... moi j'étais pas perçue comme une démissionnaire, au contraire, ça laissait de la place pour les autres, C'était pas plus mal. Oui, non, c'était pas plus mal.
Alors, c'est à ce moment-là, chez Virbac, que tu commences à écrire des articles, donc des articles plutôt pour la presse professionnelle sur les maladies infectieuses. Donc, finalement, à ce moment-là, tu reviens un petit peu dans l'écriture.
Oui, tout à fait. C'est les premiers. C'est vrai que les années d'études, alors la prépa et l'école veto, j'ai pas écrit une ligne. Hein, alors qu'avant, j'écrivais. Voilà, j'avais toujours cette petite passion, ce petit loisir d'écrire des petites choses pour moi. Mais toute la période veto, études veto, j'ai pas du tout écrit. Et là, le fait qu'on me demande, alors je sais plus comment ça s'est fait, mais on m'a demandé d'écrire des articles sur la maladie de Carré, sur voilà différentes maladies infectieuses. Ça m'est revenu. Je me suis dit, ah, j'aime bien. Ouais, effectivement, ça m'a beaucoup plu de rédiger des articles pour la presse. Ma petite fibre littéraire s'est réveillée, on va dire, à ce moment-là. J'étais assez contente. Voilà, c'était mes premières publications finalement. Et oui, j'avoue que j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'était un exercice qui me plaisait vraiment énormément.
Ensuite, tu quittes Virbac et tu pars au Vietnam. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, c'est à la fois pas de mon fait et de mon fait. C'est-à-dire que c'est mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, qui était mon copain, qui était à l'école vétérinaire avec moi. Il a fait aussi son stage de fin d'études chez Virbac. Et c'est moi qui l'ai poussé à trouver un VSNE à l'étranger. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire. Et on pouvait le faire, le service militaire, aussi à l'étranger. Alors, soit en coopération, c'est-à-dire en tant que fonctionnaire, soit en tant que VSNE. C'était le volontariat service national en entreprise. C'était une sorte de coopération et dans le privé, en fait. Et j'avais tellement envie de partir à vivre à l'étranger que je l'ai poussé à essayer de trouver un VSNE. Et donc il a trouvé avec Virbac, à faire son service militaire en entreprise chez Virbac Vietnam. Et il est parti donc assez rapidement au Vietnam, sauf que moi, je travaillais pour Virbac en France et il voulait pas me laisser partir. Donc j'ai dû quand même rester en France, je sais pas, 6 mois de plus, je pense. Je l'ai pas rejoint tout de suite. Et puis au bout d'un moment, je leur ai dit, bah écoutez, je vais quand même le rejoindre au Vietnam. Ils ont compris. Donc j'ai quitté Virbac.
T'as démissionné en fait.
J'ai démissionné et j'ai rejoint Christophe, mon mari, à Saïgon, où il travaillait pour Virbac au Vietnam.
Donc t'es partie sans boulot.
Je suis partie sans départ. Boulot. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais il n'était pas question pour moi de le laisser vivre au Vietnam alors que c'était mon rêve en fait et que c'était moi qui l'avais poussé
évidemment.
À partir à l'étranger. Donc je l'ai rejoint évidemment, je l'ai rejoint.
Et tu as trouvé du boulot là-bas?
Oui, alors d'abord, ça je l'ai pas mis sur mon CV, mais j'ai d'abord travaillé comme responsable de la production chez Tohu Bohu. C'était une entreprise de fabrication d'objets de décoration française, qui était gérée en fait par une Française. Elle fabriquait tout un tas d'objets de décoration fabriqués au Vietnam dans une petite usine où il y avait tous les ouvriers vietnamiens qui fabriquaient les trucs à la main, des trucs tressés avec des cordes. Ça revient très à la mode d'ailleurs, tous ces objets, des paniers, des choses en céramique, etc. Et donc pendant quelques temps, j'ai géré la production, je gérais en fait l'usine, les ouvriers, la fabrication des objets, les expéditions des containers pour la France, les commandes fournisseurs, les commandes des clients, etc. J'ai fait ça pendant un moment, jusqu'au jour où forcément dans le petit microcosme français et veto, il y avait quelques veto à Saïgon. Quand on est veto à Saïgon et qu'il y a un petit milieu veto, on tarde pas à se faire remarquer. Et jusqu'au jour où donc mon futur patron, qui était un vétérinaire qui avait créé sa société au Vietnam de prémix pour l'alimentation animale, entendu parler de moi et une veto française, forcément il a voulu me recruter et donc il m'a recruté pour travailler avec lui dans son entreprise.
Donc, tu as été directrice technique et marketing de cette firme service qui s'appelle Nutriway.
Voilà, c'est ça. Donc, je travaillais à la fois avec les gros finmilleurs, donc fabricants d'aliments du bétail. Voilà, oui. C'était surtout porc et volaille, un petit peu d'aquaculture. C'était vraiment l'époque du développement de l'alimentation animale au Vietnam via des sociétés françaises. C'était Sanders et Proconco, c'était alors je sais plus les potasses d'Alsace en fait qui avaient créé des joint ventures avec les Vietnamiens parce que les, oui, les Français d'accord. pouvaient pas s'installer au Vietnam donc ils devaient créer des joint ventures avec des sociétés vietnamiennes. Mais c'est vraiment les Français qui ont développé l'industrie du voilà de l'alimentation animale au Vietnam. Mais il y avait aussi des Américains, mais c'était vraiment il y avait vraiment beaucoup de Français sur place, notamment de Sanders et des potasses d'Alsace qui étaient venus pour développer toute cette industrie de l'alimentation animale au Vietnam. Parce que 10 ans avant, il n'y avait pratiquement pas d'élevage. Hein. C'était les Vietnamiens avaient 2-3 cochons, quelques poules dans leur cour. Et puis voilà, quoi. On était vraiment au début du développement de l'élevage semi-industriel, on va dire. Mais vraiment, on était au tout début. Hein.
Et qu'est-ce que tu tires de cette expérience ?
J'ai appris à gérer une équipe. Voilà, je travaillais avec des vétérinaires, quelques agros vietnamiens. Alors les agros, ils faisaient les formules. Essentiellement, les vétérinaires. On a créé aussi toute une gamme de médicaments vétérinaires pour le marché fermier, c'est-à-dire donc comme je disais, les petits éleveurs qui avaient quelques cochons, quelques volailles et qui achetaient leurs petits médicaments ou leurs petits prémix pour faire à la ferme eux-mêmes. On a créé toute une gamme de produits. Enfin, voilà, j'ai vraiment participé au développement d'une entreprise en créant des produits, en travaillant aussi avec des gros clients, des gros comptes. Voilà, il y avait deux types de travail. Puis j'ai eu aussi l'occasion de gérer plus ou moins la boîte quand mon patron était rentré en France. Donc j'ai appris à gérer une entreprise avec une centaine de salariés, des ouvriers, des commerciaux, les forces de vente, l'administratif. Enfin voilà quoi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire, très formatrice. Surtout à mon âge, voilà le fait d'être expatrié fait qu'on arrivait à des postes importants malgré son jeune âge parce que voilà Veto venant de France
c'était une opportunité quoi.
Ouais, c'était vraiment quelque chose que j'aurais jamais pu faire en France, c'est un poste que j'aurais jamais pu occuper en France à mon âge quoi. Donc j'ai appris énormément de choses. Et puis c'était très enrichissant de travailler avec les vétérinaires français. Alors, on avait beaucoup de jeunes vétos qui sortaient de l'école vétérinaire de Tuduc, qui était une école vétérinaire qui était jumelée avec les écoles vétérinaires françaises. Donc, il y avait plein de profs des écoles françaises qui étaient venus donner des cours là-bas. Donc, beaucoup parlaient français. Voilà, ils avaient eu quand même un peu une formation à la française, on va dire. Il y avait encore ce lien un peu comme à l'indo-chinoise, enfin entre la France et le Vietnam. Ils étaient très 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 heureux d'apprendre plein de choses, voilà, de faire partie de cette aventure et de pouvoir travailler dans cette entreprise quoi. C'était donc c'était tout en positif. Il y avait pas de revendications, tout le monde était heureux de travailler dans cette entreprise. On était vraiment à un moment où on développait quelque chose au Vietnam et on leur apportait quelque chose vraiment.
Après le Vietnam, tu reviens en France.
Oui.
Ça, comment ça se passe ? Pourquoi vous revenez en France ?
Alors, j'ai passé ma vie à suivre mon mari, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, lui n'a plus de travail au Vietnam. Son service militaire qui durait, alors je ne sais plus combien c'était, du coup, il devait faire 18 ou 24 mois, 18 mois, je crois. Il avait enchaîné avec un contrat local. Il a travaillé un an et demi de plus sur place. Et puis, à un moment, il n'y avait plus de poste pour lui. Donc, il a commencé à chercher du travail. Et il a trouvé un poste en France chez Royal Canin, à Aimargues. Enfin, oui, c'est Aimargues. C'est à côté de Montpellier, quoi, entre Montpellier et Nîmes. Et donc, il est rentré. Alors que moi, j'avais un super boulot au Vietnam et que j'avais pas du tout envie de rentrer. Mais bon, à un moment, voilà, il faut faire des choix. Et voilà, je suis restée au Vietnam 6 mois de plus. Et puis, bah, au bout d'un moment, bah, j'ai dû dire à mon patron que je devais rentrer, quoi. Donc, j'ai quitté le Vietnam et j'ai rejoint mon mari à Montpellier, voilà. Et ça a été un peu dur, mais bon, voilà, c'était c'est la vie qui fait ça.
Et alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement lors de ce retour en France ?
Alors, ce qui est bien, c'est que ça a été, bien réfléchi avec donc Frédéric, mon patron de Nutriway, qui a tout à fait accepté que je reparte en France et qui était vraiment un entrepreneur. Lui, il a créé une boîte extraordinaire au Vietnam, etc. Et c'est lui qui encore a eu l'idée de créer avec moi en France Fidex, donc en fait une centrale d'achat en France pour Nutriway au Vietnam. Donc j'ai créé, on s'est associé pour créer Fidex. Donc je me suis occupée avec cette société de tous les achats en France et en Europe d'additifs pour l'alimentation animale. Donc j'achetais des vitamines, des minéraux, des probiotiques. J'organisais des containers et je faisais partir des containers du Havre pour le Vietnam, quelquefois pour d'autres pays d'Asie, mais essentiellement au Vietnam. Et mon principal client, c'était Nutriway. C'était en fait une centrale d'achat pour Nutriway, quoi, qui lui permettait de ne plus avoir, lui, du Vietnam, à faire ses achats fournisseur par fournisseur. Il centralisait tout chez moi et c'est moi qui m'occupais de tous les fournisseurs depuis la France.
D'accord. Et ça, tu vas faire ça pendant combien de temps ?
À peu près, 5-6 ans, 6-7 ans. Ouais.
Donc, c'est une expérience de chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu en tires comme apprentissage ?
J'avais déjà, en fait, je crois que j'avais déjà bien été formée sur place au Vietnam pour gérer une entreprise. Donc là, là j'étais seule, hein. C'était moi qui m'occupais de tout seul. C'était plus la partie en fait administrative, devoir tout gérer de la compta aux achats, aux ventes, aller sur les salons, rencontrer les fournisseurs. Je faisais tout en fait. Hein. Et c'était très agréable parce que j'étais très autonome et très indépendante. Après, le biais, c'est que j'étais jamais en vacances finalement. Je pensais toujours à ça. J'étais toujours, j'avais toujours mes containers dans la tête, ceux qui étaient sur la mer, ceux qui allaient partir, ceux qui allaient arriver, les dédouanements, les machins. Donc voilà. Mais j'ai adoré cette période. En fait, moi, j'aurais pu continuer, je pense, assez longtemps parce que c'était très agréable. J'étais autonome, je gérais tout toute seule et j'avais pas de problèmes majeurs. Enfin voilà, j'avais des problèmes à gérer au jour le jour, mais je dirais que voilà, c'était pas quelque chose de très stressant. La seule chose, c'est qu'on n'est jamais vraiment en vacances. C'est-à-dire que même en vacances, D'accord. On est toujours un peu à s'occuper de sa boîte, même en week-end. C'est qu'il n'y a jamais vraiment... On n'est pas comme un salarié qui ferme son ordi vendredi soir et qui dit « c'est bon, je suis en week-end ».
Oui, mais ça prend beaucoup de place.
Voilà, même si je sais que même quand on est salarié, des fois, on peut avoir son boulot dans la tête aussi. Mais là, on est vraiment... On est le seul, j'étais seule, donc j'étais responsable de tout, la TVA, toutes les petites choses, hein, donc je devais vraiment être toujours disponible pour pouvoir m'occuper de Fidex. J'avais pas de remplaçant, enfin, il n'y avait pas de quoi faire travailler deux personnes, donc de toute façon, il n'était pas question d'avoir quelqu'un d'autre, donc je devais vraiment m'occuper de tout.
Oui, donc une sacrée charge. Et tu disais, j'aurais pu continuer longtemps. Et alors finalement, pourquoi cette expérience-là arrive à terme ?
Parce que Frédéric Salé, donc le directeur de Nutriway, a vendu Nutriway. Alors entre-temps, il avait créé une filiale à Hanoï, hein, donc Nutriway Vietnam, à un gros groupe hollandais, Provimi. Provimi ayant ses centrales d'achat en Hollande, enfin ils avaient tout ce qu'il fallait pour s'occuper des achats et des appros depuis eux leur siège en Hollande. Ils n'avaient plus besoin de Fidex, hein, donc Fidex n'avait plus lieu d'être, en fait la centrale d'achat que j'étais n'avait plus lieu d'être, hein. Donc j'ai arrêté.
D'accord. Alors, je fais une petite digression parce que tu m'as écrit que aussi pendant ces années-là, là, avec Fidex, tu as été bénévole dans un centre de réhabilitation pour les chimpanzés au Congo. Donc, finalement, t'étais pas suffisamment dégoûtée par le primatologue et toutes ces maladies infectieuses. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à faire du bénévolat avec des grands singes?
Ben parce que j'ai quand même voulu tenter cette expérience parce que ça m'était pas complètement sorti de la tête, parce que j'ai toujours été fascinée par les singes, les primates, enfin voilà, moi c'est encore une grande passion dans ma vie, hein. Quand je regarde sur internet des vidéos, il y a que ça, je dois regarder que des vidéos de singes parce qu'on me propose que des vidéos de singes dans mon feed.
Oui, l'algorithme a bien compris, ouais.
L'algorithme a bien compris parce qu'il ne me propose que ça. Voilà, c'est vraiment que j'adore ça, quoi. Je trouve ça magnifique, je trouve ça passionnant. Et donc à un moment, j'ai voulu quand même partager cette aventure. Alors à deux, hein, avec mon mari, on est parti. C'était sur des temps de vacances, hein, en tant que bénévole. Ça s'appelle du tourisme, de l'écotourisme. C'est-à-dire qu'on part en tant que bénévole dans une association, pour une association. On paye tout, je crois même qu'on doit payer des choses, mais c'est de l'argent qui va à l'association, en fait. Et sur place, on travaille pour l'association. Donc, en fait, c'est des vacances à travailler pour une association. Et j'ai eu le bonheur de travailler, de m'occuper de chimpanzés dans la forêt, voilà, au Congo, d'aller... tous les matins sur une barque. Alors les chimpanzés, c'était des chimpanzés qui avaient été sauvés pour certains par Eliette Jamar, la présidente de l'association Help, de Brazzaville. Donc c'était des chimpanzés qui avaient été tenus en captivité pendant de longues années, parfois même toute leur vie. Donc, on pouvait pas les relâcher dans la nature comme ça. Donc, ils avaient été relâchés sur des petites îles, hein, au milieu d'une lagune. Donc, ils vivaient plus ou moins en autonomie, sauf qu'on allait les nourrir quand même. Ils étaient pas tout à fait capables de se débrouiller tout seuls. Donc, tous les jours, deux fois par jour, on allait les nourrir en barque. On prenait un bateau à moteur et on allait sur les îles. Et ils nous attendaient et on allait leur donner à manger les pieds dans l'eau, parce que c'est très dangereux, hein, un chimpanzé, hein, faut pas croire que ce sont des peluches, hein, et donc si jamais un chimpanzé adulte vous attaque, vous plongez dans l'eau, ils ont très peur de l'eau, donc ils vont pas vous suivre, hein. Donc on descendait, voilà, on avait de l'eau jusqu'à la taille et on les nourrissait, on leur donnait des fruits, de la bouillie, des choses comme ça pour compléter un peu ce qu'ils pouvaient trouver dans la nature. Après, il y avait tout un autre programme de réintroduction dans la jungle, là, vraiment de façon sauvage, de jeunes chimpanzés qui avaient été récupérés dans des villages où ils étaient voilà, enchaînés dans des cours de maison, qui ont été récupérés parce que des braconniers ont tué leurs parents. Voilà, tous les jeunes chimpanzés qui étaient récupérés par l'association, là, il y avait tout un programme de réintroduction à la vie sauvage où on les suivait dans la jungle, à distance. On essayait de... voilà, il y avait différents types de choses faites, mais voilà, c'était passionnant, j'ai adoré ça.
Alors, si on reprend le fil de ta carrière, Fidex arrive à sa fin quand il y a eu la vente de Nutriway à un groupe hollandais. Ouais. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais?
Alors, déjà, je passe ma thèse, parce que je ne l'avais pas passée, je l'avais préparée chez Virbac. C'était une thèse voilà, qui avait un lien avec les maladies infectieuses et j'avais fait un essai chez les vétérinaires. C'était vraiment un essai clinique que j'avais mené à l'époque chez les vétérinaires. Donc, l'essai était fait, j'avais les résultats, etc. Elle était quasi rédigée, mais je l'avais pas passée. Donc, j'ai passé ma thèse, je suis devenue docteur vétérinaire, ce que je n'étais pas jusqu'à présent. Et j'ai
maintenant ils sont obligés de passer leur thèse très vite au mois de décembre qui suit la sortie, ouais, à cause de toutes les thèses qui ont mis très longtemps à être passées. Ouais.
D'accord. Et donc bah oui, moi je l'ai passée 10 ans après la sortie, quoi, de l'école. Et j'ai passé ma thèse parce que bah voilà, je vivais à Montpellier, mon mari travaillait à Montpellier. Et ben je me suis dit, il faut que je cherche du boulot à Montpellier. Donc j'ai envisagé de retourner bosser en clientèle, en canine. Et alors, on avait beau être 10 ans après la sortie de l'école, il n'y avait pas tellement de boulot à l'époque pour les vétos.
D'accord.
J'ai passé ma thèse, je suis allée.
Donc là, on est à peu près quoi, en 2010, quelque chose comme ça?
Ouais, c'est ça. 2000. J'ai dû passer la thèse en 2007, mais ouais, parce qu'il y avait un moment, enfin, entre la fin de FIDEX et. J'ai commencé à avoir du temps, donc il y avait encore FIDEX, mais l'entreprise existait encore, mais il n'y avait plus trop d'activité. Voilà, ça a mis un peu de temps, donc j'ai recommencé à préparer ma thèse à ce moment-là. Mais c'est une fois que vraiment FIDEX a été fermé que j'ai pu commencer à aller chez des vétos. Quand j'ai commencé à prospecter un peu, les seules choses que j'ai trouvées d'ailleurs, c'est d'aller en stage, hein, c'est-à-dire non rémunéré, d'aller chez des vétos pour essayer de me former, hein, me reformer un petit peu et voir un peu comment ça se passait. C'est-à-dire que je me suis confrontée à... Comment expliquer ? Je suis arrivée chez un véto qui était lui assez âgé, pas trop loin de la retraite. Il venait de s'associer avec un jeune véto qui allait reprendre sa clinique. Et sa femme était véto. Elle n'avait pas de boulot, elle, déjà, pour travailler dans la clinique. Il n'y avait pas assez de travail pour elle. Elle faisait un peu l'assistante secrétaire. Et elle avait essayé de monter un truc de véto à domicile pour travailler un peu. Et donc, quand moi, elle m'a vue arriver, elle a eu l'impression que j'allais lui piquer son boulot, quoi. Donc, j'étais pas trop la bienvenue. Alors, j'avais beau dire non, mais je viens en stage juste pour me reformer, pour apprendre et tout. Mais en fait, j'ai senti que, il y avait pas de boulot pour tout le monde. Enfin, on me l'a bien fait comprendre, en gros. Tu viens pas nous prendre notre boulot. Pour avoir écouté un de tes podcasts où une des vétos parlait de vacations à la SPA, c'est pareil, ils avaient des
vacations. C'est Camille Tourmente, oui.
Voilà, c'est ça. Ils avaient des vacations à la SPA, mais ils se battaient pour les avoir, les vétos de Montpellier, c'est-à-dire que c'était, on avait l'impression qu'ils crevaient la dalle. Excuse-moi, je m'exprime de façon un peu crue, mais
ouais.
C'est-à-dire que les vacations à la SPA, c'était, on avait l'impression.
Le Graal,
quoi. Donc moi j'arrivais dans un environnement véto là pas du tout ouvert et accueillant. J'avais l'impression que partout où j'allais on me voyait comme si j'allais leur piquer leur travail. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas de place, qu'il y avait pas de boulot pour une véto à Montpellier, quoi. Tout simplement.
Bon, si tu veux reprendre ton stéto aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas de problème, ça n'existe plus. Hein.
Non, mais c'est incroyable quand j'y pense. J'avais oublié en fait cette période de ma vie et j'y ai repensé, notamment en écoutant le podcast de Camille. Quand j'entends mes copains véto et je me dis, mais c'est dingue. Moi, à cette époque, sur Montpellier, Montpellier, c'est une ville dans le sud, pas loin de la mer. Tout le monde voulait venir ici et on était à une époque où alors il y avait peut-être pas trop de véto dans les campagnes, dans les coins de France un peu moins sympathiques, mais en tout cas Montpellier c'était vraiment
bouché,
très, très très disputé et très bouché, ouais. Donc ça a été compliqué. J'ai essayé de postuler pour travailler en entreprise. Alors je crois que j'avais essayé de postuler à Sanofi à Montpellier. Je retrouve plus quelques boîtes d'industrie pharmaceutique, oui. Ou des boîtes que j'avais plus ou moins perçues comme pouvant éventuellement embaucher une vétérinaire ayant mon profil. Oui. Et alors non, mon profil faisait peur, mais c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire le fait d'être véto, d'avoir été chef d'entreprise. D'avoir travaillé au Vietnam, d'avoir été chef de ma propre entreprise, etc. La première chose qu'on me disait, c'est « Oh non, mais vous êtes trop qualifiée. Oh non, mais nous, on veut juste un chef de produit. Oh non, mais nous, on veut juste…
» Ça faisait peur, quoi.
Et je disais « Mais moi, c'est pas grave. Je veux bien être chef de produit. Je veux bien être assistante technique. J'étais prête à faire n'importe quel petit boulot d'entrée de gamme avec un petit salaire et tout. » Mais on me disait non, vous êtes trop qualifiée. Ils avaient peur que j'ai trop de caractère. Je pense que je sois trop.
Trop exigeante ou une espèce de peur irrationnelle?
Oui, alors peut-être pas exigeante parce que je leur disais bien que je serais pas exigeante ni au point de vue du salaire, ni au point de vue, mais peut-être trop indépendante et peut-être pas assez malléable à la culture de l'entreprise ou je sais pas de quoi ils avaient peur, mais d'un profil un peu trop pas assez dans les clous, enfin trop bizarre.
Oui, trop non conventionnel, donc voilà. On n'arrive pas à trop à le mettre dans une case, donc ça fait peur, quoi.
Oui, vraiment, je voyais très bien que je faisais peur, donc j'ai pas trouvé le boulot en fait. Hein. À ce moment-là, je me suis dit j'ai du temps, je vais me remettre à écrire.
D'accord, donc ce retour à l'écriture, il est lié à ça.
Oui, tout à fait. Je crois que si j'avais trouvé du boulot, je sais pas, que ce soit en pratique libérale ou en entreprise, j'aurais peut-être pas trouvé le temps de me remettre à l'écriture et ce serait passé à l'as en fait.
Donc comment ça se passe ce retour à l'écriture?
Tout simplement, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai du temps, je me dis qu'est-ce que je fais? Je vais écrire. Voilà, c'est la première chose. J'ai déjà toujours beaucoup lu, hein. Encore une fois, pendant la période des études véto, là, j'ai pas beaucoup lu, j'avoue que. Mais sinon, j'ai toujours énormément lu dans ma vie quand j'avais du temps. Et évidemment, dès que j'ai eu de nouveau beaucoup plus de temps, je me suis mis à beaucoup lire de nouveau. Et moi, la lecture me donne envie d'écrire. C'est un peu un cercle vicieux. Et donc, j'ai eu envie de...
Un cercle vertueux.
Un cercle vertueux, allez. J'ai eu envie de me remettre à l'écriture. Donc voilà, ça s'est fait à la fois naturellement et à la fois de manière assez, comment dire, je trouve pas le mot. J'ai quand même fait les choses de façon assez carrée. C'est-à-dire, je vais commencer par une nouvelle. Je vais faire un concours de nouvelles. Donc, je suis tombée sur un concours de nouvelles. Je dis pour voir, si ça se trouve, ce que j'écris, c'est nul, quoi, ça n'a aucun intérêt.
Donc, oui, tu n'avais jamais eu de feedback, en fait, sur ce que tu écrivais.
Non, je n'avais jamais eu de feedback, je n'avais jamais écrit un roman en entier. Donc voilà, j'ai voulu déjà essayer sur des choses courtes. Donc, premier concours de nouvelles, je me souviens, c'était dans Voici. C'était une petite annonce dans Voici.
C'est marrant.
Pour un concours de nouvelles dont le thème, c'était l'amour au travail. Donc j'avais mis en scène une nana chez Virbac. Je me souviens, j'avais mis en scène la standardiste de chez Virbac, hein, qui est amoureuse d'un vétérinaire qui travaille chez Virbac. Donc voilà, l'amour au travail. J'avais écrit une petite nouvelle et puis j'ai gagné. Moi, ma nouvelle a été sélectionnée, elle a été publiée. Donc voilà, je me suis dit premier essai, première nouvelle publiée. Bon, ça vaut peut-être le coup de continuer. Donc voilà, ça m'a encouragée. J'ai fait d'autres concours de nouvelles. J'ai eu d'autres nouvelles qui ont été publiées. Et du coup, là, j'étais tellement fière de moi que je suis partie sur l'écriture de mon premier roman. Donc là, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et arrivée au bout de mon premier roman, je l'ai proposé à des éditeurs. Donc voilà, envoyé le manuscrit par la poste, à toutes les maisons d'édition, etc. Et puis là, que des refus. Là, la première expérience d'auteur.
C'était déjà un roman policier?
Non, pas du tout. C'était peut-être un peu trop personnel, pas assez. Je pense que j'avais pas encore suffisamment de bouteilles et il n'était pas assez abouti. C'était trop centré sur c'était un roman sur des vétos qui partent au Vietnam, quoi. En gros, il y avait toute une partie, c'était un groupe de vétos, il y avait toute une partie sur les années vétos, l'école vétérinaire, etc. Et puis après, certains d'entre eux partaient au Vietnam, il y avait la vie au Vietnam, après le retour en France.
C'était inspiré de ton vécu?
C'était inspiré de mon vécu, peut-être un peu trop. Je pense que quand quelqu'un écrit son premier roman, il a toujours tendance à vouloir raconter sa vie et pas de façon suffisamment fictionnelle et romancée. Et du coup, ça manque de romanesque, justement.
D'accord.
Donc, ce premier roman a été refusé par tous les éditeurs. Tous, je ne l'ai pas envoyé non plus Ouais, on peut pas dire que j'ai été très persévérante. Moi, je suis un peu du genre, si on me dit non, bah, je laisse tomber et puis allez, c'est mort, hein, j'arrête.
Et tu passes à autre chose.
Et je passe à autre chose. Donc, j'ai pas du tout été du genre à l'envoyer à des, j'ai dû l'envoyer à une dizaine de maisons et encore, je suis pas sûre. Et puis, comme j'ai eu que des refus, j'ai laissé tomber. Et puis, encore par hasard, je suis tombée sur je regardais une émission littéraire sur TF1 à l'époque, c'était Au fil de la nuit. Ça n'existe plus, là, c'est pareil. C'est un temps que les moins de 20 ans, ça passait genre à minuit, je sais pas, à 11h ou à minuit. C'était Michel Field qui présentait cette émission. Et puis, première émission de la rentrée, ils annoncent, voilà, on a un nouveau truc cette année, on fait une expérience. Ingrid Desjours, qui était une auteure de polar, qui était assez dans le vent à l'époque, a écrit le premier chapitre d'un polar. On va le mettre en ligne sur notre site internet. À vous de nous proposer le deuxième chapitre.
Et là, c'est marrant, c'est génial ça.
J'ai trouvé ça vraiment génial comme idée. C'est vraiment le principe, voilà, du cadavre exquis, des surréalistes. Je commence, vous continuez, etc. Sauf que là, c'était pas un mot après l'autre, c'était un chapitre après l'autre.
Donc, ah, c'est génial.
Voilà, je suis allée lire le premier chapitre. J'ai trouvé ça super. Et donc j'ai proposé. Alors j'ai peut-être pas proposé tout de suite, je me souviens plus, mais j'ai proposé un chapitre. Je sais plus à quel moment il a été sélectionné. Alors là, c'était vraiment enfin voilà, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Qu'on donne mon nom à la télé, etc. Le chapitre est mis en ligne et tout. Et puis j'avais pas envie du tout de m'arrêter là. Donc normalement, on était censé, quand on avait un chapitre sélectionné, on n'était pas censé continuer. Mais moi, j'ai continué, donc j'en ai renvoyé. J'ai un deuxième chapitre qui a été sélectionné. En fait, à un moment, je pense qu'ils n'avaient plus assez de gens qui proposaient des choses suffisamment intéressantes. Donc, sur la fin, moi, j'ai encore un chapitre qui a été sélectionné. Il y a un autre gars qui est devenu un ami. Pareil, il y a un deuxième chapitre à lui qui a été sélectionné aussi. Parce que je pense qu'à un moment, quand le truc se resserre, les gens ont arrêté de suivre et ils avaient plus assez de propositions. Donc moi, j'ai eu deux chapitres sélectionnés. Et à la fin de la saison, on a tous été invités sur le plateau de Michel Field pour la sortie du bouquin, pour parler de l'aventure, etc. Et ça a été vraiment assez formidable comme expérience, quoi. Ça m'a donné en fait envie d'écrire du polar. C'est-à-dire que j'étais lectrice, une grosse, grosse lectrice de polar. Grosse, grosse lectrice de littérature qu'on appelle blanche. Je lisais vraiment les deux, mais je ne me voyais pas écrire de polar. Et là, bon, ça a été le hasard. Il se trouve que le premier chapitre était écrit par une auteure de polar et que c'était un polar. Et la mécanique du polar m'a plu. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, je pense que j'ai un cerveau qui aime bien les choses bien à leur place, etc. Mmh. Et la mécanique du polar... là, en l'occurrence, il fallait faire attention à ce qui avait été mis en place dans les chapitres précédents, les différents indices, les différents personnages, tout ce qui avait été dit, il fallait rien oublier, il fallait avoir en tête tout ce qui avait été dit auparavant, l'intégrer, le mettre dans son chapitre, mettre les éléments intéressants pour pouvoir ouvrir la voie au suivant, pour qu'il puisse continuer l'intrigue, etc. Et c'était vraiment une mécanique cérébrale très intéressante et qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, finalement, je suis faite pour écrire d'une polar, parce que le polar, c'est quelque chose de très scientifique. C'est au cordeau, quoi. Il faut vraiment réfléchir à tout. On peut pas se lancer dans des grandes digressions sur l'amour, la mort, la paternité.
C'est intéressant.
Voilà, on est obligé de tenir son scénario, tenir la trame de son histoire, d'avoir vraiment quelque chose de cohérent et de pas faire n'importe quoi. On peut pas partir dans tous les sens. Et c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, le prochain, ce sera un polar. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire Soleil Noir, en fait. Donc, mon premier roman policier.
D'accord. Donc, c'est après cette expérience un peu collective. Finalement, tu découvres que le polar, ça correspond à ta construction intellectuelle, presque. C'est un peu scientifique. Et c'est là où tu te dis, je vais écrire un premier polar.
Ouais, tout à fait. Alors oui, j'avais oublié, expérience collective, juste après Connexion, j'ai participé à l'Exquise Nouvelle. Alors c'était un projet qui avait été mis en œuvre par trois garçons très talentueux, les Exquimènes, qui travaillaient dans le monde de l'édition et qui avaient, pour la première saison, écrit une nouvelle sur le mode du cadavre exquis par je sais pas combien d'auteurs. C'était né sur Internet, en fait. À l'époque, sur Facebook, je crois qu'on avait le droit qu'à 140 signes. Et donc, chacun devait écrire 140 signes. Donc, un premier auteur avait écrit 140 signes. Et ils avaient appelé les autres à écrire la suite. Ils avaient écrit une nouvelle comme ça. Et pour la deuxième saison, ils sont partis sur les exercices de style à la Queneau. Et moi, j'ai écrit, ils m'ont contacté à ce moment-là et j'ai écrit une nouvelle pour cette deuxième saison. Donc là, une nouvelle complète toute seule.
D'accord.
Il fallait partir d'un thème. Il y avait un thème de départ, en fait. Il fallait écrire une nouvelle à partir d'un thème de départ. Et ma nouvelle a été sélectionnée. Non, je l'ai écrit pour eux. Voilà, ils m'avaient demandé. Et je sais plus comment, ils m'ont demandé de faire partie de l'équipe éditoriale pour la troisième saison. C'est comme ça que j'ai géré la troisième saison de l'Exquise Nouvelle, les aventures du concierge masqué. Où là, j'ai géré une soixantaine d'auteurs, beaucoup d'auteurs de polar, dont certains sont devenus des grandes stars à l'époque. Certains l'étaient un peu, mais pas tant que ça. Il y avait Bernard Minier, Michel Bussy, Franck Tilliez, Victor Delardol, Didier Deninx. Enfin voilà, il y avait un paquet de grands auteurs. Et chaque nouvelle était écrite par trois auteurs. Donc un premier auteur écrivait le début de la nouvelle. C'était nous, donc l'équipe éditoriale, qui récupérions ce texte et on le transmettait à un autre auteur qui ne savait pas qui avait écrit le début. Il devait écrire le milieu et le troisième devait écrire la fin. Donc en fait, trois auteurs écrivaient ensemble mais sans savoir avec qui ils écrivaient.
D'accord.
Avec un thème commun, un thème de départ qui était le concierge masqué, et donc on avait toujours ce principe, on avait mixé les exercices de style et l'exercice du cadavre exquis, donc avec un premier auteur qui écrit le début, un deuxième le milieu et un troisième la fin. Et cette aventure éditoriale m'a permis de travailler avec plein d'auteurs, de les corriger, puisque c'est moi qui corrigeais leurs textes, qui faisait en sorte que les textes soient cohérents entre le milieu, la fin, le début, etc. Et j'ai appris énormément de choses en travaillant avec tous ces auteurs, en travaillant sur ces textes. Et je pense que ça m'a beaucoup servi pour l'écriture de mon premier roman. J'ai commencé l'écriture de Soleil Noir, mais toute cette partie de ma vie où j'ai travaillé de façon collective avec d'autres auteurs, à écrire à plusieurs, à corriger les autres aussi, etc. Ça m'a beaucoup aidé pour moi. Parce que quand on voit les erreurs que font les autres, ou au contraire, les petits trucs qu'ont les auteurs dans leurs textes qui vont bien, on retient, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, on apprend à se corriger soi-même, et ça permet d'apprendre vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment beaucoup appris de cette période.
Et alors, comment tu arrives à faire publier Soleil Noir ?
Je crois que j'ai envoyé mon manuscrit directement, encore un concours. Finalement, j'ai jamais eu tellement de chance avec les éditeurs directement comme ça. C'était un concours, donc c'était le prix VSD du Polar qui était sur manuscrit. C'est-à-dire que contrairement à certains prix littéraires où…
faut avoir déjà publié.
Voilà, les livres sont publiés et des jurys de prix littéraires choisissent parmi des livres publiés quel livre aura leur prix, comme le prix Fémina, Goncourt, etc. Là, c'était un prix où on envoyait notre manuscrit, l'éditeur le faisait lire, et c'était important à des lecteurs, hein, c'est-à-dire que c'était un prix des lecteurs. Donc, ouais. C'était sur la plateforme Les Nouveaux Auteurs, qui était une plateforme où les auteurs pouvaient mettre leurs manuscrits en ligne et les lecteurs les lisaient, donnaient des notes et l'éditeur publiait ceux qui avaient les meilleures notes. Donc moi, je suis pas passée par ce biais-là, mais le prix VSD du Polar, on envoyait notre manuscrit qui était à la fois lu par un jury et qui était envoyé aux lecteurs du site. Et le livre qui avait les meilleures notes des lecteurs et combiné au jury obtenait le prix VSD du Polar. Donc, Moi, j'étais assez fière parce qu'en fait, mon livre avait été choisi par des lecteurs et en plus des fans de polar, parce que les gens qui étaient inscrits au jury du prix Vaise et du polar, c'est des fans de polar qui enquillent les polars, ils en lisent des tonnes et des tonnes, ils adorent ça, c'est des mordus. Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses par rapport à un prix décerné par un jury. Donc voilà, c'était, et donc le livre a été publié parce qu'il a gagné le prix Vaise et du polar.
D'accord, publié en 2015, hein, j'ai lu.
Publié en 2015, voilà.
Est-ce qu'il y a un peu de valence scientifique ? Est-ce qu'il y a un petit peu de ta partie de cerveau vétérinaire dans ce polar-là ou pas du tout ?
Ah oui, 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 oui. Alors non seulement j'ai glissé ça et là un chat avec des poils de chat, une maman vétérinaire, la mère du capitaine Domingo, un des deux flics est vétérinaire, il la consulte pour avoir ses lumières sur des poils de chat, des choses comme ça. Donc j'ai mis un peu des petits clins d'œil comme ça au véto dans ce roman. Et puis surtout le sujet, c'est-à-dire que le sujet, je suis partie d'un sujet très scientifique pour moi. Alors pour certains, ça relève peut-être du paranormal. C'est le phénomène de combustion humaine spontanée. Je suis partie de ce mystère, moi qui m'a toujours fascinée. C'est-à-dire des gens qui prennent feu sans qu'il y ait aucune origine extérieure de feu, que ce soit d'origine criminelle ou accidentelle. On retrouve leur corps entièrement calciné, souvent sans que rien autour d'eux n'ait été brûlé par le feu. Et il y a des cas comme ça qui sont répertoriés à travers les siècles, voilà, en France, en Europe, dans le monde entier. Et c'est un phénomène qui m'a toujours fascinée. Donc, je suis partie de ce phénomène. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'y sont essayés avant moi, hein, des experts du FBI, des criminologues, des scientifiques, des physiciens, etc. Personne n'a trouvé la solution. Moi non plus, hein, je ne prétends pas avoir trouvé la solution, mais disons que je me suis servi de ce phénomène comme trame de départ à mon polar, c'est-à-dire qu'on découvre le corps d'une retraitée dans son salon, entièrement carbonisée. Il y a juste sa jambe qui est à l'extérieur du périmètre de combustion qui est intacte. Autour d'elle, dans le salon, rien n'a brûlé. Et donc les policiers découvrent cette scène de crime en se demandant s'ils ont affaire voilà à un crime, à un accident ou à un phénomène de combustion humaine spontanée. Et
tout un programme.
Donc j'avoue que j'ai un petit peu mis de la science là-dedans lors de l'autopsie, etc. Et je me suis un peu fait plaisir en rappelant les recherches qui avaient été faites sur ce sujet lorsque les deux enquêteurs essayent de s'informer sur la combustion humaine spontanée. J'ai inclus dedans un peu tout ce qui avait été fait durant les années sur ce phénomène. Mais bon, j'ai pas trouvé la solution pour autant. Un jour, dans un salon du livre, il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant « Ah, vous, je suis très en colère contre vous !» Alors je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Oui, je croyais que vous aviez trouvé la solution et à la fin de votre livre, il n'y a pas la solution. Il croyait que j'allais lui donner il croyait que j'allais lui donner la solution au phénomène de combustion humaine spontanée. Je lui dis « Ah bah désolé, mais ça fait des années que les experts essayent de trouver une solution. C'est pas moi qui vais la trouver. J'ai jamais dit que j'avais trouvé la solution. » Donc voilà, c'était mon côté, on va dire, mon apport scientifique au polar hein, dans ce premier roman.
D'accord. Alors j'ai une question beaucoup plus terre-à-terre que la combustion spontanée. C'est comment un auteur est payé ? Comment tu gagnes ta vie ? Ça marche comment dans les maisons d'édition ? C'est un peu naïf, hein, mais j'y connais rien à ce monde-là.
Ah non, mais c'est une question très intéressante qui est d'ailleurs beaucoup mise en avant en ce moment parce que le milieu de l'édition va assez mal et les auteurs vont assez mal en ce moment, c'est que l'auteur est l'acteur le moins bien payé de la chaîne du livre, c'est-à-dire qu'il gagne entre, on va dire une moyenne de 10% sur le prix de vente hors taxe du livre, mais ça peut aller de 7,5% quand on est un petit auteur pas très connu ou que la maison d'édition est pas très sympa, à 12 et 12,5%, 12-13% quand on est un auteur reconnu qui vend très bien et qui peut négocier. En moyenne, c'est 10%. Moi, j'ai plutôt connu 10% pour ma part. Donc 10% sur le prix hors taxe du livre. Hein. Donc pour un livre de qui coûte 20 euros TTC, vous imaginez combien gagne un auteur. Il gagne même pas 2 euros, quoi, 1,50 euros par livre.
Oui, donc c'est très dur d'en vivre, oui, hormis quand on est Michel Bussy.
Voilà. C'est très dur d'en vivre, hormis quand on en vend énormément et qu'on en sort un tous les ans. C'est-à-dire que oui. Les gens qui vendent beaucoup de livres, des Franck Tilliez, alors là je parle du polar, hein, Franck Tilliez, Michel Bussy, Jean-Christophe Granger, etc. Non seulement ils vendent beaucoup de livres, ils en sortent un tous les ans. Moi, honnêtement, je sais pas comment ils font. Hein. Ça devient un peu du travail à la chaîne, je trouve, personnellement, de devoir sortir un livre tous les ans à la même période. Tilliez, c'est tous les ans au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus. Mais et en plus, souvent, ils travaillent à côté sur des scénarios de séries télévisées, des choses comme ça pour gagner leur vie,
oui,
en parallèle.
Oui, d'accord, okay.
Ils ne comptent pas que sur les droits d'auteur pour vivre. Voilà. Après, bon, il y a peut-être certains. Amélie Nothomb, par exemple, elle vit ses droits d'auteur confortablement, je pense, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas du tout sur les ventes du polar. Mmh. Hein. Voilà, les quelques gros vendeurs en blanche vivent de leurs droits d'auteur sans souci, ça je pense, mais sinon même les gros vendeurs en polar ou autre, souvent ils ont une activité à côté, hein, qui rapporte beaucoup plus, notamment par exemple la télé, quoi, travailler pour la télé.
Oui, ce qui est plus lucratif, quoi.
Beaucoup plus lucratif. Oui.
Et tu parlais de fréquence de publication, tu mets combien de temps à écrire Soleil Noir?
Je sais pas, parce que je suis pas quelqu'un qui s'enferme dans une routine et qui va dire je commence et je tous les jours je vais écrire 8 heures et je finis en 6 mois, je dirais un an ou deux, mais je travaillais sur l'Exquise Nouvelle en parallèle, je faisais de la radio, c'était assez compliqué. J'avoue que ouais, je dirais un an ou deux.
Oui, d'accord. Et le roman d'après, donc qui est Dans la peau, qui est publié chez Ramsay, là c'est en 2019, donc effectivement il y a 2015 à 2019, donc il y a 3 ans, 4 ans qui s'écoulent. Comment t'en arrives là? Comment tu trouves cet éditeur-là? Ça se passe comment?
Alors déjà j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire celui-là à cause de la radio, justement, parce que j'ai commencé à faire de la radio. C'était une émission en direct toutes les semaines où je devais faire la chronique d'un livre, hein, ce qui est un boulot dingue, parce qu'il faut lire les livres.
Hein.
Faut lire le livre déjà. Souvent j'avais même pas le temps d'en lire l'autre, mais faut encore que le livre vous plaise pour avoir envie d'en faire une chronique, parce que c'est moi qui choisissais les livres que je chroniquais. Hein.
Oui.
Je recevais pas les livres, enfin j'en recevais à la radio, mais moi je faisais pas du tout comme ça. J'avais mes livres et je choisissais ceux que j'avais envie de chroniquer. Et bon, de temps en temps, on peut faire ça sur des livres qu'on a déjà lus pour gagner du temps. Mais moi, j'avais envie de chroniquer des choses qui sortaient, des choses récentes. Donc, il fallait que je lise les livres quand même. Donc, ça m'a pris vraiment du temps et j'ai eu vraiment du mal à écrire pendant cette période-là. Ce qui fait que j'ai mis du temps à écrire Dans la peau. Et puis ensuite, derrière, j'ai dû trouver un éditeur, en fait, parce que... Donc Soleil Noir avait été publié aux nouveaux auteurs, mais c'était pas, on restait pas chez l'éditeur ensuite, quoi. C'était pour le prix et après derrière, on n'avait pas de contrat avec l'éditeur. De toute façon, d'une manière générale, dans le monde de l'édition, quand vous signez un contrat avec un éditeur, vous lui devez tout, il ne vous doit rien. C'est-à-dire que vous êtes attaché à lui, vous devez soi-disant lui le préférer, lui donner un droit de préférence sur vos manuscrits, mais lui n'a aucune obligation de les accepter.
Mmh.
C'est-à-dire que vous êtes chez un éditeur, vous lui présentez votre manuscrit, s'il le refuse, faudrait que vous en écriviez un deuxième. Il peut aussi le refuser et en écrire un troisième. Et là, il le refuse aussi. Enfin, c'est vraiment pareil. Là, c'est très, très mal fait. Moi, j'ai appris sur le tas. Et puis, en faisant des salons et en discutant avec mes confrères auteurs, hein, qu'en fait, on n'était jamais liés. Qu'un éditeur n'a pas le droit de vous réclamer un manuscrit. Si vous en a refusé un, bah, vous pouvez partir, quoi. Moi, ça, je le savais pas au début. Donc voilà, ça a pris un peu de temps et puis donc j'ai mis un peu de temps à trouver un nouvel éditeur. Je sais plus comment ça s'est fait, Ramsey. Je crois que c'est par internet, par les réseaux sociaux, par le. J'étais amie avec l'éditeur de Ramsey sur les réseaux sociaux et par un échange de mails, il m'a demandé si. Je lui ai proposé mon manuscrit. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais de façon assez naturelle et en même temps un peu le hasard, parce que j'avais un peu galéré. Hein. J'avais proposé mon manuscrit à pas mal d'éditeurs que je connaissais grâce à Soleil Noir, à l'Exquise Nouvelle. Voilà, j'avais quand même un réseau. J'avais fait pas mal de salons sur lesquels j'avais rencontré des éditeurs. Voilà, et pour autant. Connaître des gens, connaître des éditeurs, même à les connaître bien, hein, personnellement, avoir leur adresse mail, leur téléphone, connaître des auteurs célèbres, eh ben ça vous garantit pas d'être publié. Je l'ai proposé mon deuxième roman à plusieurs éditeurs et ils me l'ont refusé, ça les intéressait pas, quoi. Et puis finalement, voilà, Ramsey l'a accepté, donc c'est comme ça que je suis rentrée chez Ramsey. Qui a publié Dans la peau et puis ensuite La pire espèce. Hein.
D'accord. Et quand tu rencontres les gens, quand tu parles avec les éditeurs, que tu vas sur les salons, le fait que tu sois vétérinaire, comment c'est accueilli ? C'est un sujet ? C'est pas du tout un sujet ?
Oui, c'est un peu un sujet, mais je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un sujet sans en être un, dans le sens où il y a beaucoup d'auteurs qui ne vivent pas de leur plume. Et qui donc ont un métier à côté. Il y a beaucoup de retraités, ça c'est hallucinant. Les auteurs de polar, il y a un nombre de retraités et en fait qui font que ça. Ils ont le temps et ils n'ont pas tellement besoin d'en vivre parce qu'ils ont leur retraite. Alors il y a des anciens flics, hein, il y a des anciens profs, il y a voilà, il y a un peu
c'est marrant,
tout, oui. Des anciens médecins, il y a beaucoup de retraités. Et moi quand je dis que je suis vétérinaire, bah souvent les gens croient que je continue à être vétérinaire. Ils me demandent
ah oui,
ma clinique parce qu'ils s'imaginent que je suis véto et que j'écris des livres à côté. Pendant mes loisirs, je crois qu'ils s'imaginent pas bien ce que c'est que
la vie d'un véto.
même la vie d'un flic ou d'un médecin, parce que je pense pas qu'un flic ou un médecin ait le temps d'écrire des romans.
Oui, c'est pareil. Oui, tout à fait.
Donc après, des gens qui vivent vraiment de leur plume et qui sont assez jeunes, on va dire, et qui sur, il y en a pas tant que ça finalement. Donc moi, j'étais perçue peut-être un peu comme un ovni, c'est vrai, mais souvent j'étais obligée d'expliquer que non, j'étais plus vétérinaire praticienne et que non, j'avais pas de clinique, et non, je pourrais pas soigner leurs chiens. Bon, ah, par contre, on me demande beaucoup de conseils santé, alors ce que je peux donner de façon orale, je le fais, mais il y a des limites, quoi. Souvent, je dis, bah non, là, il faut aller chez le vétérinaire, moi, là, j'ai pas le matos, hein, je suis désolée, mais...
C'est rigolo. Bon, et du coup, en 2020 sort La pire espèce, hein, tu le disais tout à l'heure, toujours chez Ramsey, donc ton troisième roman publié. Mais cette fois, voilà, on est vraiment dans le milieu vétérinaire, puisque tu parles d'un vétérinaire qui travaille au Congo et qu'il y a toute une partie sur la maltraitance animale. Pourquoi tu investis ce terrain-là dans ce troisième roman ?
Parce qu'il fallait que je le fasse, je sentais que c'était vraiment un sujet qu'il fallait que j'aborde. On me l'avait déjà plusieurs fois demandé, mais pourquoi t'écris pas sur les vétérinaires ? Pourquoi tu... Voilà, en interview, on m'avait posé la question, mais pourquoi vous écrivez pas sur les animaux, etc. Je me souviens une fois en interview avoir répondu, mais parce que j'aurais vraiment... de mal à me mettre dans la peau de quelqu'un qui maltraite les animaux. Parce que pour moi, s'il y avait un sujet à traiter, c'était la maltraitance animale. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, quoi, qui me touche. auquel je suis très sensible. Et quand on écrit un roman, on se met dans la peau de tous les personnages, hein, mais vraiment tous. Hein. Et bizarrement, autant j'arrivais sans problème à me mettre dans la peau d'un tueur, autant me mettre dans la peau de quelqu'un qui maltraite un animal, ça me paraissait assez difficile. Et puis finalement, j'ai eu le déclic, je me suis dit, si, mais il faut que je le fasse, ce roman, il faut que je l'écrive. J'ai envie d'aborder ce sujet. Et donc, je m'y suis mise et ça n'a pas été si difficile que ça, finalement. Parce que j'ai essayé de faire en sorte de pas trop me complaire dans le voyeurisme et j'ai pas trop voulu mettre en avant la violence, la souffrance, la douleur, etc. J'ai plus essayé de mener une réflexion autour de ça sans trop montrer tout ça. Il y a une trame polar, il y a une trame thriller, c'est-à-dire que le héros est un vétérinaire qui travaille. Je me suis servi un peu de mon expérience personnelle, mais enfin c'est vraiment juste évoqué. Il travaille dans une réserve pour les chimpanzés en Afrique et il revient en France à Montpellier pour faire une vacation, un remplacement dans un abattoir de la région. Et puis il va être confronté aux pratiques de l'abattoir. Il va essayer de se confronter à ce qui se passe dans cet abattoir. Et en même temps, il y a aussi un fait divers qui secoue un peu la ville de Montpellier, sans la secouer vraiment parce que tout le monde s'en fout un peu. C'est un refuge pour nouveaux animaux de compagnie, une dame qui recueille des lapins et des nacs qui a été attaquée, vandalisée et des gens ont massacré tous les animaux, tous les lapins pour le plaisir, juste pour le plaisir sadique de massacrer des animaux. Et voilà, donc il y a les deux trames qui vont se chevaucher un petit peu. Et on va suivre un peu. Mais là, les héros sont vraiment vétérinaires. Il y a Clément Katz, qui est le vétérinaire qui revient du Congo. Et il va loger chez Léo Delaz, hein, qui est une vétérinaire auteure de polar, hein, qui va lui louer un appartement dans la grande maison qu'elle possède. Et tous les deux vont plus ou moins mener l'enquête de façon un peu indirecte, on va dire. Mais là, on n'est pas dans un polar classique, dans le sens où il n'y a pas vraiment de flics qui mènent l'enquête. C'est plutôt des gens de la vie civile, donc là, en l'occurrence, des vétérinaires, qui sont mêlés à une intrigue.
Donc, on est plus dans le thriller, de ce point de vue-là.
On est dans le thriller, de ce point de vue-là.
Ok. Très clair. Et donc aujourd'hui, tu te consacres 100% à l'écriture. Là, c'est le dernier est sorti en 2020. Est-ce qu'il y en a un quatrième qui va arriver ?
Alors, qui est en écriture, mais j'avoue que j'avais un peu levé le pied sur l'écriture à cause du confinement, de la pandémie, etc. Mon livre est sorti, mon dernier livre est sorti en pleine pandémie. Les salons, tous étaient annulés. Enfin, ça a été un peu difficile. J'ai pas vraiment pu faire la promo du livre comme je l'aurais voulu, le défendre sur des salons, etc. Ça m'avait un peu frustrée. Et du coup, j'avais un peu ralenti l'écriture. Et puis derrière, je m'étais mise à retravailler un petit peu en tant que correctrice pour faire de la correction, de la réécriture de textes scientifiques. Donc voilà, j'ai pris un peu de retard et j'ai mis un peu de frein sur l'écriture, mais c'est en cours. Voilà, j'avais arrêté celui qui était en cours pour en commencer un nouveau. J'étais pas bien. Voilà, donc là je suis un peu en train de, je suis en période de réflexion et d'écriture.
Réflexion.
Voilà.
D'accord. Alors j'ai quelques questions un peu subsidiaires, on va dire. Alors dans mon métier d'éditrice, alors moi pour le coup dans la presse pro, pas du tout dans le monde du livre, on fait écrire des articles à beaucoup de consoeurs et de confrères. D'ailleurs deux de mes proches collègues, dont la rédactrice en chef de Thémavet, sont vétérinaires et savent merveilleusement écrire. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vétos qui savent écrire et parfois qui savent vraiment très très bien écrire. Hein. J'ai vraiment des autrices notamment qui quand elles écrivent me touchent, hein, d'un point de vue littéraire. Alors est-ce que tu as une idée de pourquoi autant de vétérinaires savent-ils écrire ? Ça tient à quoi ? Selon toi, ça tient à quoi ?
Je ne sais pas. Je crois que le métier de vétérinaire regroupe des profils très, très différents. parmi lesquels ils... Parce que je pense que ce n'est pas le cas de tous les vétérinaires. Il y a des vétérinaires qui ne savent pas du tout
non,
écrire.
Probablement pas.
Et, oui. Qui ne sont pas du tout littéraires, que la littérature n'intéresse pas du tout. Donc, je pense que le profil à la base de la personne fait que c'est quelqu'un qui est très littéraire, qui aime la littérature et l'objet écrit. Après, peut-être que dans les études... alors c'était peut-être en prépa les devoirs de bio, ça c'est un truc, je sais pas si ça existe dans d'autres filières scientifiques hein, comme tout ce qui est maths sup, maths spé. Quand on fait que des maths, de la physique et de la chimie, on n'a pas à rédiger un devoir de bio comme nous on avait à faire en prépa où on avait un sujet. C'était un peu comme une dissertation finalement de biologie. On avait un sujet sur l'ADN ou machin et on devait écrire 8 pages sur un sujet de bio qui finalement touche presque à la vie. Ça touche à tellement de choses. On peut intégrer dans notre devoir de biologie plein de thèmes différents. On doit construire le devoir avec des parties bien articulées, etc. Est-ce que ça développe pas notre fibre.
Puis du français aussi. Hein. Moi, j'avais du français. Moi, je me rappelle, c'était l'homme et l'animal, mon année de concours. Donc, on avait quand même pas mal d'heures de français.
Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que dans les autres prépas scientifiques, il y a peut-être du français aussi? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, ce qui me revient à l'esprit, c'est ce devoir de bio pour lequel j'étais très douée et que j'adorais. Hein. Vraiment, c'était... On devait
vraiment... Oui, il y a peut-être une forme de polyvalence intellectuelle qui est sélectionnée par le concours, c'est une hypothèse.
C'est possible. Parce que c'est vrai qu'on est, quand même, c'est un métier technique finalement qui est basé sur des connaissances techniques et des actes techniques, sur une réflexion, voilà, on doit faire un diagnostic, etc. Et dans la pratique de tous les jours, on n'a pas à mettre en œuvre nos qualités rédactionnelles, hein, à aucun moment. Donc, peut-être plus uniquement dans les études, on doit mettre en œuvre ce côté-là.
Oui, c'est intéressant.
Voilà.
Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux vétérinaires qui nous écoutent et qui écrivent ou qui souhaitent écrire?
Alors, qui souhaitent écrire, si vous ne faites que souhaiter écrire, n'écrivez pas. Parce que ça, combien de fois je l'ai entendu, « Oh, j'aimerais beaucoup écrire un livre » ou « Oh, moi aussi, j'aimerais sortir un livre »« Oh, moi aussi, j'aimerais publier un livre ». Mais il faut pas avoir envie d'écrire un livre ou envie de publier un livre ou de sortir un livre. Il faut aimer écrire. C'est-à-dire que si vous écrivez déjà, là, je peux vous donner des conseils, mais si vous avez envie d'écrire juste mais que vous ne le faites pas, ça sert à rien parce que écrire, c'est pour ça là moi j'ai une période où j'écrivais plus, je me suis pas forcée parce que pour moi écrire ça doit être un besoin, ça doit être une passion, une nécessité, on doit avoir un truc dans la tête et avoir besoin absolument de le coucher sur le papier. Ça m'arrive tout le temps. Alors ça je le fais par contre, hein. C'est tout d'un coup, même la nuit j'ai une phrase dans la tête. Je me réveille, j'allume et je la note dans mon téléphone ou je la note sur un carnet. Mais je crois pas trop à l'écriture comme discipline et comme voilà, j'ai envie d'écrire donc je vais me mettre à écrire un livre. Il faut vraiment que ça vienne naturellement. Après, à un confrère ou une consoeur qui aurait déjà écrit un roman ou qui serait en train d'écrire un roman. Alors, des techniques d'écriture, là, ce serait un peu trop long de donner des conseils d'écriture, mais j'aurais envie de dire qu'il faut écrire sur ce que l'on connaît. On n'est jamais aussi bon que quand on écrit sur quelque chose que l'on connaît, ça, je m'en suis rendu compte. Ou en tout cas, il faut avoir vraiment fait beaucoup de recherches dessus pour pouvoir en parler de façon très naturelle. Sinon, ça se sent tout de suite. Quand un auteur parle d'un truc, voilà, il a voulu aborder un sujet à la mode ou quelque chose, et en fait, qui n'y connaît rien, quoi. Et ça se sent tout de suite. Et je pense qu'on est très naturel et on est très bon quand on parle d'un sujet que l'on connaît bien, que l'on maîtrise et qui nous tient à cœur. Voilà. Et quand vraiment ça nous tient à cœur et qu'on le connaît bien, on le restitue de façon fluide et intelligible pour le lecteur. Sinon, ça passe pas bien. Moi, pour le coup, pour des choses scientifiques, dans des romans, j'ai déjà vu des auteurs, bah, de polar notamment, écrire des trucs, mais sur des autopsies ou des pathologies qu'aurait pu avoir le mort, enfin, ou des histoires de virus ou de machin, des trucs mais complètement aberrants d'un point de vue scientifique, quoi, et de me dire mais alors là vraiment c'est n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment, voilà, quand on est véto, bah écrire sur la médecine, la science, sur des sujets vétérinaires, là par exemple sur le sujet de la maltraitance animale, etc. Moi j'avoue que j'ai dû me replonger un peu sur l'IDAOA, l'hygiène animale, comment ça se passe dans les abattoirs, voilà les différentes phases d'inspection, etc. Parce que je m'en souvenais plus et uniquement me fier à mes souvenirs de cours d'IDAOA de l'école quand on allait à l'abattoir de Corba pour faire les inspections des carcasses et tout ça, je m'en souvenais plus. Donc j'ai quand même fait des recherches. Il faut être assez précis et pointu quand on écrit un roman. Après, si on a juste envie de parler de ses sentiments, de sa vie personnelle, etc., bon, bah là, il faut laisser libre cours à sa fibre littéraire et
créative.
Créative.
Alors, j'ai une autre question. Tu dis quoi aujourd'hui quand tu te présentes ? Tu es romancière, autrice de polar ou vétérinaire ?
Moi, j'ai toujours tendance à dire vétérinaire parce que mon slogan, c'est un peu vétérinaire un jour, vétérinaire toujours. Forever.
Ouais, c'est vraiment, vétérinaire pour la vie, c'est Loïc Dombreval qui me parlait de ça la semaine dernière, de ce slogan-là. Ouais.
Ouais, je tiens peut-être ça de lui, je sais pas, mais ouais, vétérinaire pour la vie, oui, c'est vraiment...
Donc voilà. Tu le dis encore en premier.
Oui, dans la vie de tous les jours, je le dis encore en premier. Je dis toujours je suis vétérinaire. Alors quand on me dit ah bon vous êtes installé où et machin, je dis non, je n'exerce pas comme vétérinaire, mais je suis vétérinaire. Pour moi, c'est mon identité profonde en fait. C'est ça me caractérise. Après, effectivement, quand je suis dans un contexte éditorial, littéraire, sur un salon, etc., je me présente pas comme vétérinaire. Je me présente comme écrivain ou romancière. Je dis romancière parce que au moins on connaît le féminin. Ça m'évite de dire autrice,
écrivaine, autrice,
auteur, ou écrivaine. Finalement, je crois que autrice, c'est le terme le plus adapté parce qu'il existe depuis très longtemps, que c'est le même terme qui est utilisé pour actrice, en fait, actrice, autrice. Mais j'ai pas encore réussi vraiment à l'intégrer, mais il faudrait que je l'intègre. Donc j'ai tendance à dire romancière, en fait.
D'accord. Pour le féminiser, en fait.
Oui, voilà, pour le féminiser.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ?
Que je suis fière d'être vétérinaire, que comme on le disait tout à l'heure, j'éprouve une certaine culpabilité à avoir un peu laissé tomber ma confrérie, on va dire. J'ai parfois le sentiment qu'il faudrait que j'y retourne parce que des fois je me dis mais ils ont besoin de moi. Et en même temps, voilà, il y a toute cette jeune génération qui, je suis sûre, est là et est hyper compétente et prête à prendre le relais. En même temps, j'ai aussi envie de dire aux jeunes que vétérinaire, ça ouvre à des futurs possibles tellement divers et variés. Que je pense que vous êtes plus, enfin vous, les
oui, vétérinaires. Oui, moi je suis déjà vieille, tu sais. Hein.
Je t'inclus dans la jeune génération, mais voilà, je pense que la jeune génération est plus au courant de toutes les possibilités qui s'offrent à elle. Après, à mon époque, c'était pas le cas. C'était vraiment très très rare de sortir du cursus de la pratique libérale. Donc voilà. Explorer les différentes possibilités qui s'offrent à vous, mais ne jamais oublier qui vous êtes et ne jamais oublier que vous êtes vétérinaire. Et
merci Armelle pour cet échange, pour nous avoir partagé ce parcours qui est non conventionnel a priori, mais finalement où tout s'articule assez bien. Il y a une sorte de continuité hein, qui est assez chouette à écouter. Alors je sais pas si de ton côté c'était chouette à dérouler, mais de mon côté c'était chouette à écouter, entre bah, ce début de littéraire contrarié jusqu'à la vétérinaire en entreprise, jusqu'à l'écrivain mais qui utilise en fait sa construction intellectuelle de veto. Donc voilà, on prend rendez-vous pour le quatrième roman du coup.
Avec
je te dis à bientôt.
Merci beaucoup Marine, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.